Chapitre 7. Les loups. 1. Voyez cela, voyez-le clairement. Voici une route aussi large et entretenue que peut l'être n'importe quelle route secondaire d'Amérique, mais revêtue de cette poussière tassée que les habitants de la Cala nomment Hogan, avec de chaque côté un fossé pour le ruissellement. De loin en loin, des caniveaux de bois nettoyés régulièrement qui courent sous l'Hogan. Dans la lueur blafarde et irréelle qui précède l'aube, une douzaine de grands boucas, de ceux qui conduisent les manis, avec leurs capotes de toile, s'avancent le long de la route. La toile est d'un blanc immaculé, pour réfléchir le soleil et garder la fraîcheur à l'intérieur pendant les jours de canicule, et on dirait de grands nuages étranges flottant au ras du sol. Des cumulus ne vous déplaisent. Chaque chariot est tiré par 6 mules ou par 4 chevaux. Sur le siège avant, menant l'équipage, se trouve une paire de combattants ou d'anges gardiens. Overholser conduit le chariot de tête, Margaret Eisenhart à ses côtés. Puis vient Roland de Gilead, assis avec Ben Slightman. Puis Tian et Zaya Jaffords, précédant Eddie et Susanna Dean. Le fauteuil de Susanna est replié à l'intérieur de leur chariot. Bucky et Annabelle Javier les suivent. Et enfin, sur le siège surélevé du dernier véhicule, apparaissent le père Callahan et Rosalita Munoz. Dans les chariots, on compte 99 enfants. Le jumeau dépareillé, celui responsable du nombre impair, et Benny Slightman, bien sûr. Il se trouve dans le dernier chariot. Il n'a pas voulu aller dans celui de son père. Les enfants ne disent pas un mot. Certains parmi les plus jeunes se sont rendormis. Il faudra les réveiller sous peu lorsque la caravane aura atteint sa destination. Devant eux, à moins de 2 kilomètres maintenant, se trouve la fourche, où le chemin qui pénètre dans le pays des Arroyos bifurque à gauche. Vers la droite, la terre s'étend en pente douce jusqu'au fleuve. Tous les conducteurs gardent le regard tourné vers l'est, vers les ténèbres impénétrables de tonnes foudre. Ils attendent un nuage de poussière. Ils ne le voient pas. Pas encore. Même les vents de Seminon sont tombés. Les prières du père Callahan ont dû être entendues. Du moins ces prières-là. 2. Assis à côté de Roland sur le siège du chariot, Ben Slightman parla à voix si basse que le pistolero eut peine à l'entendre. Qu'allez-vous faire de moi? Si, lorsque les chariots avaient quitté Calabrian Sturgis, on avait demandé à Roland de parier sur les chances de survie de Slightman, Roland les aurait estimés à 5%. Pas plus, en tout cas. Il y avait 2 questions cruciales à poser qui exigeaient des réponses précises. La première devait venir de Slightman lui-même. Roland ne s'attendait pas vraiment à ce qu'il la pose, pourtant c'était le cas. Roland tourna la tête vers lui. Le contremaître de Von Eisenhart était très pâle, mais il retira ses lunettes et soutint le regard de Roland. Le pistolero ne lui imputa pas un courage exceptionnel. Slightman l'aîné avait à n'en pas douter eu le temps de jauger Roland, et il savait qu'il devait regarder le pistolero droit dans les yeux s'il voulait conserver le moindre espoir. « Oui, là, je sais, » dit Slightman d'une voix assurée, du moins jusque-là. « Je sais quoi ?»« Que vous savez. »« Vous l'avez deviné quand nous avons démasqué votre complice, je suppose, » dit Roland. Il avait délibérément employé ce mot de manière sarcastique. Le sarcasme était la seule forme d'humour que Roland comprit vraiment. Et Slightman grimaça. « Le complice. Votre complice. » Mais il acquiesça, sans quitter Roland des yeux. Je me suis dit que si vous étiez au courant pour Andy, vous l'étiez pour moi aussi. Même s'il ne m'aurait jamais donné. Ça ne faisait pas partie de sa programmation. C'en fut vraiment trop, et il ne put supporter plus longtemps le regard du pistolero. Il baissa les yeux, en se mordant la lèvre. Je l'ai surtout su à cause de Jake. Roland ne parvint pas à dissimuler sa surprise. Il a changé. Il ne le voulait pas, par grâce comme il est, et pas avec son courage, mais il a changé. Pas envers moi, envers mon garçon. Au cours de la dernière semaine, disons, des 10 derniers jours, Benny en a seulement été, déconcerté, comme vous diriez sans doute. Il sentait quelque chose, mais il savait pas quoi. Moi, si. C'est comme si votre garçon ne voulait plus être près de lui. Je me suis demandé ce qui pouvait en être la cause. La réponse m'a paru très claire. Claire comme de la jeune bière, savez-vous. Roland était en train de s'éloigner du chariot d'Overholsen. Il fit claquer les rênes sur le dos de ses bêtes. Elles accélérèrent un peu la cadence. Derrière eux, ils entendaient les chuchotements et les ronflements des enfants et le cliquetis assourdi des harnais. Il avait demandé à Jake de remplir une petite boîte d'objets appartenant aux enfants et il l'avait regardé faire. C'était un bon garçon, qui ne remettait jamais une corvée à plus tard. Ce matin-là, il portait un chapeau pour se protéger les yeux du soleil et l'arme de son père. Il était assis sur le siège du 11e chariot, à côté d'un des estrades. Il se disait que Slightman devait avoir un bon garçon, lui aussi, ce qui avait largement contribué à les mettre dans cette situation déplorable. Jake était au Dogan, une nuit où Andy et vous êtes allés donner des nouvelles de vos voisins, dit Roland. À côté de lui, Slightman grimaça comme un homme qui vient de recevoir un coup de poing dans le ventre. Là-bas, dit-il. « Oui, je l'ai presque senti, ou du moins, j'ai cru le sentir. » Il se tut un moment, puis... « Bordel !» Roland regarda vers l'est. Il faisait un peu plus clair, mais toujours aucun nuage de poussière à l'horizon, ce qui était une bonne chose. Quand le nuage apparaîtrait, les loups seraient très vite là. Leurs chevaux gris seraient rapides. C'est alors que Roland posa l'autre question, presque distraitement. Si Slightman répondait par la négative, il ne vivrait pas assez longtemps pour voir arriver les loups, même sur leurs chevaux si rapides. Si vous l'aviez trouvé, Slightman, si vous aviez trouvé mon garçon, est-ce que vous l'auriez tué? Slightman rechaussa ses lunettes tout en pesant sa réponse. Roland ne pouvait dire s'il comprenait l'importance de la question. Il attendit de voir si le père de l'ami de Jake vivrait ou mourrait. Il lui faudrait prendre une décision rapide. Ils approchaient de l'endroit où les chariots s'immobiliseraient pour laisser descendre les enfants. L'homme finit par relever la tête et posa de nouveau le regard sur celui de Roland. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Les choses étaient très claires. Il pouvait répondre à la question du pistolero ou bien le regarder en face, mais il était incapable de faire les deux en même temps. Slightman baissa de nouveau les yeux vers le plancher en bois entre ses pieds, puis se décida enfin à répondre. « Oui, je pense qu'on l'aurait tué. » Il fit une pause, hocha la tête. Dans le mouvement, une larme glissa d'un de ses yeux et alla s'écraser sur le sol en bois du siège. « Oh, et là ? Comment faire autrement ?» Il releva la tête. À présent, il pouvait de nouveau affronter le regard de Roland, et il y lut que son destin avait été scellé. « Faites vite, dit-il, et faites en sorte que mon garçon ne le voie pas. Je vous en conjure. » Roland fit de nouveau claquer les rênes sur l'échine des mules. « Ce ne sera pas moi qui ferai taire cette misérable bouche. » La respiration de Slightman s'arrêta. en disant au pistolero que, oui, il aurait tué un garçon de 12 ans pour protéger son secret. Il avait eu sur le visage une sorte de noblesse déchirée. Maintenant, on n'y lisait que l'espoir, et l'espoir le rendait laid, presque grotesque. Puis il poussa un soupir étranglé. Vous vous moquez de moi. Vous jouez avec mes nerfs. Vous allez me tuer, je le sais. Pourquoi vous ne le feriez pas ? Le lâche juge tout ce qu'il voit d'après ce qu'il est, fit remarquer Roland. Je ne vous tuerai pas sauf si j'y suis contraint, Slightman, parce que j'aime mon garçon. Ça, vous pouvez le comprendre, n'est-ce pas ? Aimer son garçon. Oui, là. Slightman baissa de nouveau la tête et frotta de la main sa nuque brûlée par le soleil. Cette nuque dont il pensait qu'elle finirait brisée des mains du pistolero. Mais il faut que vous compreniez bien une chose, pour votre bien autant que pour celui de Benny. Si les loups gagnent, vous mourrez bel et bien. Vous pouvez être sûr de ça. Enfoncez-vous ça dans le crâne, comme diraient Eddie et Susanna. Slightman le regardait de nouveau, les yeux rétrécis derrière ses lunettes. Écoutez-moi bien, Slightman, et avec tout votre entendement. Nous serons là où les loups comptent nous trouver, mais sans les gosses. Quelle que soit l'issue, cette fois, ils laisseront des cadavres derrière eux. Et quelle que soit l'issue, ils sauront qu'ils ont été trompés. Combien Calabrian Sturgis était en mesure de les tromper ? Seulement 2. Andy et Ben Slightman. Andy est déconnecté. Il est hors de portée de leur vengeance. Il sourit à Slightman d'un sourire aussi glacial que la banquise du bout du monde. Mais pas vous, ni vous, ni le seul être auquel vous teniez dans ce que vous prétendez être un cœur. Slightman réfléchit aux propos du pistolero. L'idée ne l'avait visiblement pas effleuré, mais une fois qu'il en eut perçu la logique, elle était indéniable. Ils penseront certainement que vous avez volontairement changé de camp, reprit Roland. Mais même si vous pouviez les convaincre qu'il s'agissait d'un accident, ils vous tueraient de toute façon, et votre fils aussi, en guise de vengeance. Une tache rouge était apparue sur les pommettes de Slightman. Les roses de la honte, pensa le pistolero. Mais alors qu'il envisageait de voir les loups tuer son fils, il redevint blême. Ou peut-être était-ce sa perspective de voir Benny emmené à l'est pour y devenir crâné. Je vous demande pardon. Pardon pour ce que j'ai fait. Allez vous faire foutre avec vos excuses. Le cas est à l'œuvre et le monde change. Slightman ne répondit rien. Je suis disposé à vous laisser aller avec les enfants, comme j'ai dit que je le ferai. Si tout se passe comme je l'espère, vous ne verrez rien de l'action. Dans le cas contraire, rappelez-vous que c'est Sarah Adams qui a le commandement et qui donnera l'ordre de tirer. Et si je dois lui parler ensuite, priez pour qu'elle n'ait que du bien à dire de vous. Quand Slightman n'eut rien d'autre à répondre que le silence, Roland reprit sur un ton cassant. « Dites-moi que vous comprenez. Bon Dieu !»« Tout ce que je vais entendre, c'est « Oui, Roland, j'intuite. »
Oui, Roland, j'intuite très bien. »
Nouveau silence.
Et si on gagne, est-ce que les Falcon l'apprendront, d'après vous ? Est-ce qu'ils apprendront ce que j'ai fait ?
Pas de la bouche d'Andy, en tout cas. C'en est fini de son babillage. Pas de mon cas-tête non plus. Ce n'est pas par respect pour vous que nous nous tairons, mais par respect pour Jake Chambers. Et si les loups tombent dans le piège que je leur ai tendu, pourquoi les Falcon soupçonneraient-ils l'existence d'un autre traître ? Il scruta le visage de Slightman de ses yeux froids.
Ce sont des gens innocents, confiants, comme vous le savez, pour l'avoir utilisé contre eux. La rougeur revint aux yeux du contremaître. Il regarda de nouveau le sol. Roland leva la tête et vit apparaître l'endroit qu'il cherchait à 300 mètres devant le convoi. Bien. Il n'y avait toujours aucun nuage de poussière à l'horizon, mais il le sentait grossir dans son esprit. Les loups arrivaient. Oh oui. Quelque part au-delà du fleuve, ils étaient descendus du train pour enfourcher leurs chevaux, et ils arrivaient à bride abattue, à un train d'enfer, car c'est de là qu'ils venaient.
Je l'ai fait pour mon fils, dit Slightman. Andy est venu me trouver en me disant qu'il le prendrait certainement. Quelque part par là-bas, Roland. Il tendit la main vers l'est. Vers Tonnefoudre. Quelque part par là vivent de pauvres créatures qu'on appelle briseurs. Des prisonniers. Selon Andy, ils ont des dons de télépathie et de psychokinésie et... Bien que je n'intuite aucun de ces deux mots, je sais qu'ils ont à voir avec l'esprit. Les briseurs sont des humains et ils nourrissent leur corps comme vous et moi, mais ils ont besoin d'une autre nourriture, d'une nourriture spéciale, pour nourrir cette partie spéciale d'eux. De la nourriture cérébrale, conclut Roland. Il se rappela que sa mère disait du poisson que c'était de la nourriture pour le cerveau. Et puis, pour une raison qu'il fut incapable d'expliquer, il se surprit à penser aux excursions nocturnes de Susanna. Seulement, ce n'était pas Susanna qui se rendait dans cette salle de banquet en pleine nuit. C'était Mia, fille de personne. « Ouais, là, j'imagine, » acquiesça Slightman. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que les jumeaux sont seuls à avoir, quelque chose qui les relie par l'esprit. Et ces types, pas les loups, mais ceux qui les envoient, ils l'extraient de leur tête. Quand c'est fait, les enfants ne sont plus que des idiots. Ils sont cramés. C'est la nourriture, Roland, vous intuitez. C'est ça qui les attire, pour nourrir leurs maudits briseurs. Ni leur corps, ni leurs estomacs, mais leurs esprits. Et je ne sais même pas ce qu'ils sont censés briser.
« Les deux rayons qui portent toujours la tour, » répondit Roland. Slightman en fut abasourdi et effrayé. « La tour sombre, » chuchota-t-il. « Dites-vous. »«
Oui. »« Qui est Finley ?»« Finley Otego. » »«
Je ne sais pas. Une voix à laquelle je fais mon rapport. »
Un taïn, je pense.
Vous savez ce que c'est?
Et vous?
Slightman secoua la tête.
Alors, restons-en là. Peut-être le rencontrerai-je leur venue et il répondra lui-même de ses actes.
Slightman eut beau ne pas répondre, Roland sentit qu'il avait des doutes, ce qui ne lui posait pas de problème. Ils en avaient presque fini à présent, et le pistolero sentait se relâcher cette chaîne invisible qui lui saignait le ventre. Il se tourna complètement vers le contremaître, lui faisant face pour la première fois.
Andy a toujours su trouver des gens comme vous à causer Slightman. Je ne doute pas que c'est pour ça qu'on l'a laissé ici, tout comme je ne doute pas que votre fille, la sœur de Benny, n'est pas morte de manière accidentelle. Il leur faut toujours un jumeau dépareillé et un parent faible.
Vous ne pouvez pas la ferme.
Vous avez dit tout ce qui était bon pour vous.
Slightman se tut et resta assis là, à côté de Roland.
Je peux comprendre la trahison. J'en ai eu ma part, ne serait-ce qu'envers Jake.
Mais ça ne change rien à ce que vous êtes, soyons bien clairs. Vous êtes un oiseau charognard, un rouillot devenu vautour.
Les joues de Slightman prirent la teinte d'un beau bordeaux.
Si je l'ai fait, c'est pour mon garçon, s'entêta-t-il à répondre.
Roland cracha dans la paume de sa main, puis leva la main et se mit à caresser la joue de Slideman. Elle était gonflée de sang et chaude au toucher. Puis le pistolero saisit les lunettes par le centre et les secoua légèrement sur le nez de l'homme.
« Ça ne part pas, »
dit-il très calmement. « À cause de ça. C'est avec ça qu'ils vous ont eu, Stateman. C'est votre marque de reconnaissance. Vous vous dites que vous le faites pour votre garçon afin de pouvoir dormir la nuit. Moi, je me dis que j'ai fait ça à Jake pour ne pas laisser passer ma chance de trouver la tour, et c'est ce qui m'aide à dormir la nuit. La différence entre vous et moi, la seule différence, c'est que je n'ai jamais accepté de paire de lunettes. » Il s'essuya la main sur son pantalon.
Vous avez renié vos principes, Slideman, et vous avez oublié le visage de votre père.
Laissez-moi tranquille, murmura Slideman.
Il essuya le crachat du pistolero qui scintillait sur sa joue. Il fut remplacé par ses propres larmes.
Au nom de mon garçon!
Roland hocha la tête.
C'est uniquement pour ça. Au nom de votre garçon. Vous le traînez derrière vous comme un poulet mort. Mais peu importe.
Si tout se passe comme je l'espère, vous vivrez peut-être toute votre vie à ses côtés et vous vieillirez respecté par vos voisins. Vous serez l'un de ceux qui ont vaincu les loups quand les pistoleros sont arrivés par le sentier du rayon. Quand vous ne pourrez plus marcher, il vous soutiendra.
Je le vois, mais je n'aime pas ce que je vois. Parce qu'un homme prêt à vendre son âme pour une paire de lunettes la revendra pour quelque autre babiole, du moins de prix encore, et quoi qu'il en soit, tôt ou tard, votre garçon découvrira ce que vous êtes. La meilleure chose qui pourrait arriver à votre fils aujourd'hui, c'est que vous mouriez en héros.
Et avant que Slideman puisse répondre, Roland leva la main et s'écria
« Hey, Overholzer! Oh, oh, du chariot! Overholzer! Arrêtez-vous! On y est! Grand merci !»
Roland, commença Slideman. « Non !» répondit Roland en accrochant les rênes. « La palabre est terminée. Rappelez-vous seulement ce que je vous ai dit, Sai. Si vous avez une chance de mourir en héros aujourd'hui, faites une faveur à votre fils et saisissez-la. »
3. Au début, tout se passa selon leur plan et ils y virent l'œuvre du cas. Quand les choses commencèrent à mal tourner, ils y virent aussi l'œuvre du cas. Le cas, aurait pu dire le pistolero, c'était souvent la dernière chose sur laquelle prendre appui.
4.
Roland avait expliqué aux enfants ce qu'il attendait d'eux, à la lueur des flambeaux, sur la pelouse de la ville. À présent, dans le jour naissant, avec le soleil qui attendait toujours en coulisses, ils se mirent parfaitement en place, alignés sur la route du plus vieux au plus jeune, chaque paire de jumeaux se tenant par la main. Les boucas étaient garés sur le côté gauche de la route, leur roue gauche juste au-dessus du fossé. Le seul vide se situait à la fourche du chemin, là où il se séparait de la route de l'Est. Formant une ligne clairsemée, près des enfants, se tenaient les anges gardiens, leur nombre ayant largement dépassé la douzaine, avec l'ajout de Tian, du père Callahan, de Slideman et de Wayne Overholzer. En face d'eux, le long du fossé droit, sur une ligne aussi, se trouvaient Eddie, Susanna, Rosa, Margaret Eisenhart, et la femme de Tian, Zalia. Chacune des femmes portait une poche en roseau doublée de soie et remplie de plats. Dans les fossés en dessous et à côté d'eux, ils avaient entassé des malles contenant d'autres orlitsa. Leur nombre total s'élevait à 200. Eddie jeta un œil de l'autre côté du fleuve. Toujours pas de poussière. Susanna lui adressa un sourire anxieux qu'il lui retourna.
C'était la partie difficile, la partie qui faisait peur. Plus tard, il le savait, le brouillard rouge l'envelopperait et l'emporterait, mais pour l'instant, il était trop conscient de tout. Et ce dont il avait le plus conscience, c'était du fait qu'ils étaient en ce moment même aussi démunis et vulnérables qu'une tortue sans sa carapace. Jake remonta la file d'enfants à toute vitesse avec en main la boîte contenant les biens qu'il avait récoltés. Des rubans, un anneau de dentition, un sifflet taillé dans un bâton d'if, une vieille chaussure ayant presque perdu sa semelle, une chaussette solitaire. Il y avait environ 2 douzaines d'objets de ce genre.
« Benny Slightman !» aboya Roland. « Frank Tavery ! Francine Tavery ! À moi !»« Eh, dites donc !»
dit le père de Benny Slightman immédiatement sur la défensive. « Pourquoi est-ce que vous faites sortir mon fils de la... pour qu'il fasse son devoir comme vous ferez le vôtre ?» répondit Roland.
« Plus un mot !»
Les 4 enfants qu'il avait appelés se présentèrent devant lui. Les Tavery étaient écarlates et hors d'haleine, les yeux brillants se tenant toujours la main. « Écoutez-moi maintenant, et que je n'ai pas à répéter un seul mot !» annonça Roland. Benny et les Tavery se penchèrent anxieusement en avant. Bien que très impatient de pouvoir partir, Jake était visiblement moins nerveux. Il connaissait son rôle et la plus grande partie de la pièce qui allait se jouer, dont Roland espérait qu'elle allait se jouer. Roland s'adressa aux enfants, mais d'une voix assez forte pour que les anges gardiens qui les encadraient puissent entendre eux aussi.
« Vous allez remonter ce chemin, et tous les 2 ou 3 mètres, vous allez laisser quelque chose derrière vous, comme si c'était tombé au cours d'une marche rapide. Et c'est ce que je veux que vous fassiez, vous 4, une marche rapide. Ne courez pas, mais presque. Attention où vous mettez les pieds. « Allez jusqu'à la fourche du chemin, à 300 mètres, mais pas plus loin. Vous intuitez ? Pas un pas plus loin !»
Ils hochèrent la tête avec empressement. Le regard de Roland glissa sur les adultes qui se tenaient tendus derrière eux.
« Ces 4-là partiront 2 minutes en avance. Puis viendront les autres jumeaux, les plus vieux d'abord, les plus jeunes en dernier. Ils n'iront pas loin. » Les dernières paires quitteront à peine la route.
Roland leva la voix, criant ses ordres.
« Les enfants, quand vous entendrez ceci, faites demi-tour! Revenez vers moi le plus vite possible !»
Le pistolero mit les 2 premiers doigts de sa main gauche dans le coin de sa bouche et émit un sifflement tellement aigu que plusieurs enfants se couvrirent les oreilles de leurs mains.
« Saï !» « Si vous voulez cacher les enfants dans l'une de ces grottes, pourquoi les faire revenir ?»
demanda Annabelle Javier.
« Parce qu'ils ne vont pas dans une de ces grottes. C'est là-bas qu'ils vont, » dit Roland en tendant la main vers l'est. « C'est Dame Orissa qui va prendre soin des enfants. Ils se cacheront dans le riz, juste de ce côté du fleuve. »
Ils regardèrent tous dans la direction qu'il indiquait, et c'est ainsi qu'ils virent le nuage de poussière, tous en même temps. Les loups arrivaient. 5.
Nous allons avoir de la visite, mon chou, dit Susanna.
Roland opina de la tête, puis se tourna vers Jake.
Vas-y, Jake, comme je te l'ai dit.
Jake prit 2 bonnes poignées d'objets dans la boîte et les tendit aux jumeaux Tavery. Puis il sauta par-dessus le fossé de gauche, aussi gracieux qu'une biche, et se mit à remonter le chemin de l'Arroyo, Benny à ses côtés. Frank et Francine les suivaient de près. Roland vit Francine laisser tomber un petit chapeau de sa main.
« D'accord, » fit Oberholzer. « J'en intuite au moins une partie, savez-vous. Les loups verront les frusques et y croiront d'autant plus que les enfants sont là-bas. » « Mais pourquoi envoyer les autres au nord, pistolero ? Pourquoi ne pas les accompagner dans le riz dès maintenant ?»«
Parce qu'il faut que nous partions du principe que les loups sentent la piste de leur proie comme de vrais loups, » répondit Roland.
Il éleva de nouveau la voix.
« Les enfants, dans le chemin, les aînés d'abord, Tenez la main de votre partenaire et ne la lâchez pas. Revenez quand vous entendrez le sifflet. »
Les enfants se mirent en branle, aidés par Callahan, Sarah Adams, les Javier et Ben Slightman, qui leur firent franchir le fossé. Tous les adultes avaient l'air nerveux. Seul le pas de Benny avait aussi l'air méfiant.
Les loups commenceront par y aller parce qu'ils auront des raisons de croire que les enfants sont là-bas, dit Roland. Mais ils ne sont pas stupides, Wayne. Ils chercheront un signe, et nous le leur donnerons. S'ils sont capables de suivre une piste à l'odorat, et je parierai la dernière récolte de riz de cette ville que c'est le cas, ils trouveront l'odeur, les chaussures et les rubans. Quand ils perdront la piste du groupe principal, celle du groupe de quatre que j'ai envoyé en premier les occupera encore un petit moment. Ça les enfoncera un peu plus, ou peut-être pas. Mais alors, ça ne devrait plus avoir d'importance. Mais Roland l'ignora. Il se tourna vers sa petite bande de combattants. Ils seraient sept en tout. « C'est un bon chiffre, » se dit-il. « Le chiffre de la puissance. » Il scruta le nuage derrière eux. Il était plus haut qu'aucun des tourbillons du Séminon, et il se déplaçait à une vitesse horrifiante. Pourtant, pour l'instant, Roland trouvait que tout se passait bien. « Écoutez bien, » dit-il cette fois à Azalia, Margaret et Rosa. Les membres de son propre quatet savaient déjà ce qu'il allait dire, ils le savaient, depuis que le vieux Jamie avait susurré son secret, si longtemps gardé, à l'oreille d'Eddie, sous le porche des Jaffords. « Les loups ne sont ni des hommes ni des monstres. Ce sont des robots. »«
Des robots !»
cria Overholser, sa voix trahissant plus la surprise que l'incrédulité.
« Si fait !» et d'un genre que mon cadet a déjà croisé sur sa route.
Il pensait à une certaine clairière où les tout derniers serviteurs du grand ours s'étaient entrepourchassés dans une danse ultime et infinie. S'ils portent des capuches, c'est pour cacher le petit piston qu'ils ont sur le dessus de la tête. Il fait environ cette taille. Roland leur montra une hauteur d'environ 5 cm et une longueur de 13. C'est cette partie que Molly Doolin a touchée et qu'elle a coupée net avec son plat il y a bien longtemps. Elle a frappé là par accident. Nous frapperons à dessein.
Les bonnets de pensée, fit Eddie, leur point de contact avec le monde extérieur. Sans eux, ils sont aussi morts qu'une merde de chien. Visez ici, dit Roland en plaçant sa main droite environ 3 cm au-dessus de son crâne.
« Mais alors, la poitrine, la branchie dans la poitrine ?» dit Margaret Eisenhart, visiblement perplexe.
« Des foutaises depuis le début, » avoua Roland. « Visez le haut de la capuche. »«
Un jour, » dit Ian, « je saurai pourquoi il faut qu'il y ait toujours autant de saloperies de foutaises. »«
J'espère surtout que ce jour viendra, » répondit Roland.
Les derniers enfants, les plus jeunes, commençaient à remonter le chemin, se tenant par la main, disciplinés. Les plus vieux se trouvaient environ 200 mètres devant eux, et l'équateur de Jake encore au moins 200 mètres au-delà. « Ça devrait suffire, » se dit le pistolero. Il porta alors son attention sur les anges gardiens.
« Ils vont revenir, alors vous les emmènerez de l'autre côté du fossé, en rang, deux par deux. »
Sans regarder, il fit un signe du pouce par-dessus son épaule.
« Ai-je besoin de vous répéter combien il est important que les pieds de maïs ne soient pas dérangés, surtout ceux près de la route où les loups pourront s'en rendre compte ?»
Ils secouèrent la tête.
« Au bord des rizières, » poursuivit Roland, « faites-les passer par un des courants. Poussez quasiment jusqu'à la rivière. Faites-les s'allonger là où le riz est haut et toujours vert. »
Il écarta les mains, ses yeux bleus étincelants.
« Dispersez-les !» Vous autres, adultes, restez près d'eux, côté rivière. En cas de problème, un renfort de loups, un événement imprévu, c'est de ce côté que ça se produira.
Sans leur laisser l'occasion de poser des questions, Roland se fourra de nouveau deux doigts dans la bouche et siffla. Von Eisenhart, Krell Anselm et Wayne Overholser rejoignirent les autres dans le fossé et se mirent à rappeler les plus petits pour les faire revenir vers la route. Pendant ce temps, Eddie jeta un regard par-dessus son épaule et fut ébahi de constater combien le nuage s'était rapproché de la rivière. Quand on connaissait leur secret, leur rapidité n'était plus un mystère. Ces chevaux gris n'étaient pas du tout des chevaux, mais des propulseurs mécaniques conçus pour ressembler à des chevaux, rien de plus.
« Comme une horde de chevrolets en déplacement officiel, se dit-il.
« Roland, ils arrivent, et à toute vitesse !»
Roland regarda vers l'est.
« Tout va bien, dit-il.
« T'en es sûr ?»
demanda Rosa.
« Oui. »
Les plus jeunes enfants se pressaient à présent de revenir, main dans la main, les yeux agrandis par la peur et l'excitation. Ils étaient emmenés par Cantab des Mani et par Ara, sa femme. Elle leur dit de marcher bien droit au milieu des travées en essayant de ne pas toucher les pieds de maïs squelettiques.
« Pourquoi, Saï ?»
demanda un bambin qui ne devait pas avoir plus de 4 ans avec une tache douteuse sur le devant de sa salopette.
« Le maïs, il a été cueilli, vous voyez ?»«
C'est un jeu, » répondit Cantab.
« Le jeu dure, on ne doit pas toucher le maïs. »
Et il se mit à chanter. Certains enfants se joignirent à lui, mais la plupart étaient trop abasourdis et trop effrayés. Tandis que les paires de jumeaux traversaient la route, plus grands et plus vieux à mesure qu'ils rentraient, Roland jeta un œil vers l'est. Il estima que les loups étaient encore à 10 minutes des berges de la Wai, et 10 minutes devraient suffire, mais bon Dieu qu'ils allaient vite. L'idée l'avait déjà effleuré qu'il serait peut-être contraint de garder Slightman le jeune et les jumeaux Tavery avec eux. Ça ne faisait pas partie du plan, mais avant que les choses en arrivent si loin, le plan changeait presque toujours, bien obligé. Les derniers enfants revenaient, et seuls Oberholzer, Callahan, Slightman, l'aîné, et Sari Adams étaient encore sur la route.
« Allez-y !» leur dit Roland.
« Je vais attendre mon garçon !» objecta Slightman.
« Allez-y !»
Slightman avait l'air disposé à discuter ce point, mais Sari Adams lui toucha le coude, et Oberholzer l'attrapa carrément par l'autre.
« Viens donc !» dit Oberholzer.
« Il va prendre soin du tien comme si c'était le sien. »
Slightman adressa à Roland un ultime regard dubitatif, puis il enjamba le fossé et fit démarrer la fin de la ligne, aidé d'Oberholzer et de Sari.
« Susanna, montre-leur la cachette !»
ordonna Roland. Il avait pris soin de s'assurer que les enfants traversaient le fossé du côté de la rivière bien plus bas que là où ils avaient creusé la veille. À présent, à l'aide d'une de ses jambes raccourcies et encapuchonnées, Susanna repoussa un tas de feuilles, de branches et de pieds de maïs séchés. Le genre de déchets qu'on s'attendait à trouver dans un fossé au bord d'une route, leur révélant un trou sombre.
« Ce n'est qu'une tranchée, » dit-elle en s'excusant presque. « Il y a des planches au-dessus, légères, faciles à déplacer, c'est là qu'on sera. Roland a fait un...
« Ah, je ne sais pas comment vous l'appelez chez vous, nous on dit un périscope, un instrument avec des miroirs à l'intérieur et par lequel on regarde à l'extérieur. Et le moment venu, on se lèvera et les planches tomberont sur le côté. »
« Où sont Jake et les 3 autres ?» demanda Eddie. « Ils devraient être revenus. »«
Il est trop tôt, » dit Roland. « Calme-toi, Eddie. »«
Je ne me calmerai pas, il n'est pas trop tôt. » On devrait au moins les apercevoir. Je vais aller jeter...
Non, dit Roland.
Nous devons en avoir autant que nous pourrons avant qu'ils comprennent ce qui se passe, et ça veut dire garder notre puissance de feu ici, dans leur dos.
Roland, il y a quelque chose qui ne va pas.
Roland l'ignora.
Mesdames, Sice, glissez-vous là-dedans, je vous prie. Les mâles contenant les plats supplémentaires seront de votre côté. On jettera juste des feuilles mortes par-dessus.
Tandis que Zalea, Rosa et Margaret se faufilaient dans le trou révélé par Susanna, Roland tourna le regard au-delà de la route. Le chemin vers l'Arroyo était à présent complètement désert. Il ne vit toujours aucun signe de Jake, de Benny et des jumeaux Tavery. Il commença à se dire qu'Eddie avait raison, que quelque chose avait mal tourné.